Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, nous avions entendu le témoignage de Timothée Barr, délégué général de l'association Lazare. Donc, pour rappel, c'est une association qui développe des colocations solidaires entre sans-abri et jeunes actifs. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vécu parce que j'ai la chance de recevoir deux personnes qui vivent Lazare au quotidien. Donc Philippe était à la rue avant de rejoindre Lazare. Paul, lui, a rejoint la colocation alors qu'il démarrait un job. Donc salut à tous les deux.
Salut.
Bonjour.
Bon, déjà, un grand merci parce que vous venez de Lille. Donc merci d'être venu à moi.
Bah, avec plaisir. Moi, je viens pas de Lille, je viens du Sud. Mais effectivement, normalement, je vis à Lille et Philou m'a rejoint à la gare du Nord.
Tout à fait, oui, oui. Donc, voilà. Et donc, un immense plaisir de pouvoir participer à votre émission.
Bah, c'est super gentil. Comment vous êtes connu, en fait? Ça fait longtemps que vous vous connaissez?
Philou, ça fait combien de temps?
Disons
ça fait presque deux ans.
En ce qui me concerne, oui, ça va faire bientôt deux ans que je suis donc, colocataire chez Lazare.
D'accord.
Et j'ai rencontré notamment tous mes colocs, et puis lui, Paul en particulier, à la coloc de Lille. Le jour où il était arrivé un petit peu après moi, donc quand il est arrivé, bon, ben, le contact s'est fait rapidement, bien et positif, donc voilà, comme ça j'ai découvert.
Vous avez l'air de bien vous entendre.
Hein. Philippe m'a accueilli à l'association Lazare, c'est pas rien, je suis arrivé, il était déjà là.
Comme je l'ai été moi-même quand j'étais arrivant, à tout début, j'étais là il y a deux ans. Donc c'est tout à fait normal d'avoir le même comportement vis-à-vis d'autrui et d'autres personnes qui ne connaissent pas, donc ça leur a permis de faciliter l'accueil.
On est les deux plus anciens colocs de la colocation de Lille.
Ouais. D'accord. Donc vous êtes les doyens de Lille.
On est les doyens, l'un par l'âge, l'autre par l'arrivée.
Et moi en plus par l'âge aussi, ouais, par la même occasion.
Bon alors justement, on va faire un saut dans le passé, parce que c'est la tradition sur Deviens Génial, on parle toujours de l'enfance et on aime bien connaître l'enfance de nos invités. Alors j'aimerais bien savoir comment vous avez grandi et qui veut démarrer en premier.
Moi en ce qui me concerne, j'ai donc 66 ans. J'ai démarré mon enfance avec mes parents, bien évidemment, parce que, et j'ai été le petit dernier d'une fratrie de trois personnes, d'un frère et une sœur. J'étais le petit dernier et j'ai eu une enfance, je ne dirais pas privilégiée, mais heureuse, satisfaisante, et j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu possibilité d'avoir un petit peu ce que je voulais, à condition de le mériter, bien évidemment, ce qui n'était pas forcément le cas tout le temps. Et donc, par conséquent, après des études assez brèves, j'ai voulu absolument arrêter l'école à l'âge de 16 ans, parce que moi, l'école, c'était pas vraiment ma tasse de thé, rien du tout. Donc, à force de tarabuster mes parents, ils ont fini par accepter l'évidence, à savoir de me faire arrêter l'école, que voulaient que je continue. Et à 16 ans, n'ayant pas encore été à l'armée, parce qu'à l'époque, il y avait encore l'armée, bon, j'ai bricolé les petits boulots de magasinier, choses comme ça, des trucs pas vraiment intéressants du tout. Et c'est en retour de l'armée qu'après, j'ai trouvé ma voie. Je suis devenu ce qu'on appelle un commercial, un VRP, vendeur par représentant placier. Et j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant presque 35 ans.
D'accord. Paul ?
Ouais, moi je suis arrivé dans une famille, j'y suis arrivé parce que j'y suis pas né, j'ai été adopté, je suis arrivé dans une famille sénémarnaise, j'ai des parents adorables, j'ai eu une enfance heureuse avec des parents aimants, ils le sont toujours. Donc j'ai vécu à la campagne, j'étais dans une ferme, en Seine-et-Marne, le 77, et j'adorais particulièrement, je m'en souviens pour mon enfance, l'école. J'ai toujours adoré l'école, c'était un moment extraordinaire, parfois je redoutais même un peu les vacances, en fait, pour être tout à fait honnête.
On n'est pas les mêmes alors.
J'avais une bonne école, et puis voilà, j'ai un frère, et j'ai grandi près de Meaux.
D'accord. Voilà. Alors, ma question suivante, elle va aller à Philippe. Donc, tu t'es retrouvé à un moment donné à la rue dans ta vie. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment ça s'est passé et comment tu l'as ressenti?
Ça s'est passé, le plus bêtement possible, parce que la limite, évidemment, c'est rien n'était calculé à ce niveau-là. Et quand j'habitais dans le sud, je suis revenu dans le nord après la perte de ma compagne qui est décédée. Et comme je n'étais pas très, très fort moralement à ce niveau-là, j'ai un frère qui habite la région lilloise et qui m'a tarabusté pour que je revienne habiter dans le nord. Parce qu'il me dit, quitte le sud, tu n'as plus rien à y faire, que les mauvais souvenirs, tout ça. Et je suis revenu dans le nord. Et puis j'ai continué un peu à travailler parce que j'étais quasiment à la pré-retraite. Mais j'avais trouvé un boulot quand même où j'étais chauffeur pour des personnes handicapées. Je transportais des personnes. Matin, midi, après-midi, enfin, besoin, ou même des salariés d'ailleurs qui sont handicapés, qui ont des handicapés aussi. Et puis un beau jour, j'ai eu un gros problème de santé. J'ai fait un double pontage coronarien. J'ai été très, très malade. J'ai été hospitalisé pendant plusieurs semaines. Et au bout de 6 mois, quand j'ai retrouvé ma liberté, je suis reparti chez moi. J'avais un appartement à l'époque. Et mon propriétaire, qui avait très bien compris la situation, m'a toujours accepté comme ça. Mais un beau jour, il m'a dit quand même, Philippe, il faudrait quand même que tu penses à trouver une solution parce que ça fait plus de 6 mois de loyer en retard, tout ça. Donc j'ai accepté, bien sûr, j'ai rendu l'appartement, j'ai déménagé mes affaires. Et comme je n'avais pas d'autres possibilités, j'ai loué un garage, seulement pour ne pas y mettre de voiture parce que je n'en avais pas à l'époque. Et donc, par conséquent, ce garage m'a servi ni plus ni moins que de gîte. Parce que voilà, j'y ai posé mes affaires que j'ai sorties de l'appartement. J'avais un matelas et j'ai posé mon matelas par terre dans le garage. Et j'ai vécu comme ça pendant 6 mois. D'accord. Dans le garage, qui n'était pas du tout prévu pour ça, bien évidemment. Mon propriétaire du garage ne savait d'ailleurs pas que j'y couchais, parce que je ne pense pas qu'il l'aurait accepté. Et au niveau de la loi, c'est interdit, je crois. Enfin bref, ça s'est pas trop mal passé quand même. Et puis au bout de 6 mois, j'avais contacté une assistante sociale. Et une assistante sociale m'a dit, écoutez, monsieur Bru, moi je ne peux rien faire pour vous. Malheureusement, je n'ai pas de solution à vous proposer. Si ce n'est peut-être, j'ai entendu parler d'une association qui s'appelle Lazare, qui eux font de la colocation, comme on vous l'a expliqué.
Et là, c'est le drame. Hein ? Et là, c'est le drame.
Ah oui, et donc par conséquent, j'ai rencontré les responsables de cette colocation lilloise, Marc Ambaruy pour être plus précis, et qui m'ont dit écoute, on va... en plus, il y avait une place qui venait de se libérer dans cette coloc, donc ils m'ont dit tu peux venir l'intégrer, on va te présenter les colocs qui y sont, de manière à ce que vous puissiez vous rencontrer une première fois et puis de voir si ça vous convient dans les deux sens, hein, aussi bien toi en tant qu'arrivant que eux en tant que accueillant. Et donc, ça s'est très, très bien passé. Et ça va faire 2 ans.
Voilà. Et quand, en fait, tu te retrouves justement sur le système D de devoir habiter dans un garage, tu te dis que ça va durer 6 mois ou...
Je ne savais pas, mais c'est vrai que j'avais frappé à beaucoup de portes pour essayer de trouver une alternative, une solution. Et puis, ça commençait à faire... j'y ai quand même dormi. Alors, en plus, c'était en période hivernale, donc du mois de septembre, octobre, jusqu'au mois d'avril l'année suivante. Donc, 6 mois, un peu plus de 6 mois. Et c'est vrai que je commençais à m'inquiéter et sérieusement, ne trouvant pas d'alternative à mon problème. Mmh. Et puis c'est le jour où on m'a contacté, enfin où Lazare m'a donné ses coordonnées, que là j'ai vu la porte s'ouvrir, le soleil revenir, et puis voilà, j'étais sorti de l'affaire.
Et toi Paul, tu l'as connu comment l'asso en fait ? T'es venu au bénévolat comment ?
Moi d'abord j'étais scout unitaire de France à Nanteuil-le-Haudouin et j'ai aidé à retaper une vieille maison, une belle ferme même. Je savais pas bien pourquoi est-ce qu'on retapait ça, mais enfin il paraît que c'était notre projet, donc j'y allais à cœur joie. Et j'ai découvert un monsieur qui s'appelle Étienne Villemain et qui m'a dit moi je suis le créateur d'une association, c'est une des maisons de cette association. D'accord. Où en fait on créait des colocations entre des jeunes pros et des personnes sans abri. Et donc à l'époque, je sais pas, j'ai un peu moins de 20 ans, c'est vrai que ça me passe un petit peu au-dessus de la tête, je m'en rappelle pas trop. Et à l'enterrement de vie de garçon d'un ami, il y a un coloc qui arrive, un coloc Lazare à Lille qui arrive et qui me dit je suis coloc Lazare, il y a une place dans la coloc. Et moi je lui demande c'est quoi ? Il m'explique, je connais, je suis venu retaper une maison. Il me fait si tu veux, il y a une place, ça dit de devenir coloc Lazare. Donc je lui dis écoute, je te suis. Donc c'est Louis Langrand, Philou, que tu le connais. Et donc je lui dis écoute, je te suis. Je m'attendais à rien. Je savais pas du tout à quoi je m'engageais. Ça m'avait juste l'air génial. J'ai vu que lui, il avait bien besoin qu'on vienne un petit peu le seconder à Lazare parce qu'il était un peu fatigué à ce moment-là. Et je me suis dit que c'était une nouvelle aventure dans la vie. Donc pourquoi pas. Et je me suis lancé comme ça. C'est comme ça que je suis arrivé à Lazare.
Est-ce que, tous les deux, vous avez eu une appréhension avant de rejoindre une maison Lazare, de rentrer dans ce type de coloc ?
Je parle pour ma part, en tout cas, non, parce que je savais pas du tout je savais pas à quoi je m'engageais. C'est-à-dire que j'ai dit oui comme ça parce que ça me semblait sympa et en fait ça fait 2 ans que j'y suis. Non, pas d'appréhension parce que je savais pas ce que je vais y vivre, même si après j'ai vécu des moments un petit peu plus compliqués en entrant, j'avais aucune idée de ce que c'était la coloc Lazare.
Ouais.
Et moi, j'ai pas vraiment eu d'appréhension, si ce n'est le fait de me dire, parce que quand ça s'est ouvert devant moi cette possibilité à 64 ans, j'étais pas franchement convaincu que j'y arriverais à m'y adapter, parce que c'est vrai que ayant toujours vécu par mes propres moyens, j'avais jamais eu besoin de ce genre de choses. Et puis quand je m'y suis présenté, j'ai connu les personnes qui étaient là, Et puis, il s'est avéré que bah, ça s'est tellement bien passé dès le début que tout de suite, ça m'a facilité le fait d'y aller, quoi.
Et t'as été y habiter tout de suite ou t'as commencé par des repas ou, parce que...
Alors, la tradition de chez Lazare, ça veut dire que quelque part, quand on rentre dans la colocation, bon, c'est après déjà l'acquiescement des responsables de la maison, en l'occurrence, monsieur et madame Roquette. Et donc, par conséquent, bah, ils te demandent de venir passer une soirée, manger avec eux, justement pour briser la glace, pour se rencontrer. Comme ça, les gens, et, bah, quand ils... Moi, j'étais un peu le cœur serré quand je suis allé là-bas, parce que je n'étais pas certain de comment ça allait se passer, tout ça.
Ouais.
Et puis, il s'est avéré que ça s'est vraiment bien passé. Tout le monde était très accueillant, très chaleureux. Et donc, ça m'a libéré la pression que je pouvais éventuellement avoir.
Ouais, ça reste un beau souvenir, cette soirée ou cette journée.
Absolument, oui. Et maintenant, c'est vrai que quand on a un nouveau coloc qui arrive, bon, bah, on est tous pareils, on essaye de le mettre le plus à l'aise possible pour que justement il n'y ait pas une difficulté d'adaptation. Quoi.
Ouais.
C'est vrai que c'est suivant les tempéraments, suivant les caractères, tout le monde ne réagit pas forcément de la même façon. Donc il faut laisser autant le temps et voilà, puis ça se passe très bien. Jusqu'à maintenant, j'ai que des bonnes rencontres quand tu es arrivé, toi, Paul. Voilà, vraiment des gens qu'à la limite, je n'aurais jamais pu rencontrer autrement.
Ouais,
si je n'avais pas été dans cette coloc, bah, je serais probablement passé à côté plein de personnes que je n'aurais jamais connues. Et ça aurait été dommage de ne pas les rencontrer.
Mmh. Mais c'est vrai que le choix est démentiel. Je rejoins Philou hein, quand j'imagine et je me mets à sa place, à 64 ans,
ah oui.
De te dire je vais me mettre en coloc avec des petits jeunes de 20 ans.
Voilà.
C'est pas intuitif.
Ouais, mais l'inverse aussi. C'est-à-dire quand t'es jeune et te dire je vais rejoindre des maisons avec des sans-abri, tu peux, enfin, avec des gens qui étaient dans la rue, ça, tu peux avoir des a priori.
Ah, c'est clair que c'est un défi de pas avoir d'a priori et quand on a de les surmonter. Mais c'est aussi ça un des grands apports de Lazare en tout cas.
Ouais. Mmh. Et toi, tu te rappelles du premier jour où t'as mis un pied dans la maison ?
Ouais, je me rappelle extrêmement bien. D'abord, je m'étais perdu en chemin pour venir, donc j'étais arrivé en retard au repas de coloc et puis finalement le retard m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Je suis à peu près toujours en retard.
Tu te fais chambrer.
Et Philippe rigole parce que lui, il est toujours à l'heure. Donc, on a un petit décalage.
Et donc, génération. Hein.
Ouais. Et je me souviens très, très bien de la première fois où j'ai poussé la porte de la coloc de Marc Ambarol, là, à Lille, et où je les ai vus. Et je me souviens de Philippe, hein, je t'ai vu, il y avait Marco à l'époque. Voilà. Et je me souviens très bien de ce premier pas. Et je me suis dit, mais ils ont tous l'air extraordinaires. Je ne me serais jamais attendu à ça. Et trop cool, c'est parti. Et puis, on y croit et on y va. Et puis... je ne sais pas vraiment ce que je vais vivre. Ils ont l'air géniaux et de toute façon, j'ai déjà dit oui, donc j'y vais.
Timothée me disait, quand on s'est parlé lors de l'entretien précédent, il me disait, le mot qui revient souvent, c'est famille. Vous l'avez ressenti, ça, justement, le fait d'être dans un...
Tout à fait, absolument, oui. Et moi, je trouve que, en ce qui me concerne, toujours par moi-même, évidemment, je ne peux pas parler pour les autres, mais en plus, bon, bah, moi, avec mon âge assez écarté du leur, bon, c'est des jeunes qui ont une moyenne d'âge entre 25 et 30 ans. Et c'est vrai que quelque part, moi, je ne veux pas jouer le papa gâteau, mais c'est vrai que quelque part, je suis un peu là aussi pour leur donner des petits conseils, éventuellement, sur des choses de la vie qu'ils ne connaissent pas forcément. Alors après, ils m'écoutent ou ils ne m'écoutent pas. Ça, c'est un autre problème. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Mais ça me fait plaisir de pouvoir essayer de leur apporter, avec mon expérience de vie, quelque chose qu'eux ne connaissent pas vraiment, pas forcément.
En tout cas, ce qui est vrai, et dans ce que tu dis, Jérémy, c'est tu parles de famille, c'est vraiment ça. En fait, c'est que moi, mes collègues, je les aime, mais vraiment. Une fois, je suis rentré pour un déjeuner de famille à Pâques, et on m'a dit « Alors, ça fait quoi, Lazare ? J'y étais depuis 6 mois. » Et j'ai dit « Bah, en fait, c'est comme si en 6 mois, tu avais des nouveaux frères et sœurs et des nouveaux oncles et tantes, tu vois, un peu comme... Donc, c'est-à-dire que des gens extrêmement proches que tu aimes de tout ton cœur et qui sont arrivés dans ta vie en 6 mois. Et ce que j'ai vécu, moi, c'est une vraie inflation du cœur, une explosion du cœur, c'est-à-dire une capacité d'élargissement et d'apprentissage de l'amour que je n'avais pas du tout jusqu'à présent. Et ça a transformé ma vie dans ma façon d'appréhender les autres, d'oser la rencontre. Tu dis qu'il y a le thème famille, aussi le grand thème de la rencontre à Lazare. Ouais. D'ailleurs, dans la Bible, Lazare, c'est une des paraboles de la rencontre. Et voilà, il y a quand même cette capacité à rencontrer, à entrer en contact, à entrer même en communion et en cohabitation, de partager ce que j'ai de plus précieux, l'endroit où je vis, avec ces personnes qui, en fait, sont extrêmement proches de moi, géographiquement, mais aussi par le sentiment.
Et que, de toute façon, comme disait Philippe, que tu n'aurais jamais rencontré si tu étais resté dans ta vie classique, quoi.
Je ne sais pas si je les aurais jamais rencontrés. En tout cas, ça m'a permis de les rencontrer, ça, c'est une certitude.
Si on parle un peu de votre quotidien concret. Ça se passe comment, en fait? C'est quoi les règles de Lazare
Les règles, c'est déjà de respecter toutes les personnes qui sont autour de nous, bien évidemment. Hein. On essaye, dans la mesure du possible, de toujours être à l'écoute et de ne pas savoir trop juger différence. Quoi. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. C'est comme dans toutes les familles, comme vient de dire Paul. Quelquefois, il y a des petites dissensions, une petite chamaillerie entre l'un et l'autre. Ou même des grandes, oui.
C'est pas grave.
Mais ça, c'est dans toutes les familles pareil. Ah, donc, ouais. À la limite, il n'y a rien d'extraordinaire à dire là-dessus. Et puis, c'est vrai que moi, en ce qui me concerne aussi, cette découverte m'a été très importante aussi pour moi, parce qu'il a fallu que j'ai eu des problèmes graves de santé à 64 ans pour que je vive cette expérience-là. Et comme quoi, quelque chose, malheur est bon, ça m'a apporté beaucoup de bien aussi, parce que franchement, c'est des gens que j'ai rencontrés que je ne soupçonnais même pas, quoi, en définitive. Et c'est très, très enrichissant.
Là, vous êtes combien concrètement là, dans la coloc?
Peut-être juste avant, on est 8. Peut-être juste avant, peut-être te décrire un peu le cadre de vie.
Ouais,
en fait.
Ouais.
Donc Lazare, c'est une cohabitation là à Lille de 8 personnes. Parfois, on peut monter jusqu'à 30 personnes dans une coloc avec des hommes, des femmes et des familles. On ne vit pas dans le même appartement. On a des appartements et des pièces communes séparées.
C'est pas mixte.
Non, mais on vit dans la même maison. Voilà. Mais on a nos pièces, nos cuisines, nos salons séparés entre les hommes et les femmes. Donc nous à Lille, ce qui est certain, c'est que comme dans toutes les maisons de Lazare, il y a un certain nombre de règles à respecter. Par exemple, l'interdiction de l'alcool. Il n'y a pas de consommation d'alcool à Lazare dans la maison pour permettre à tous de se sentir accueillis et de pouvoir avoir un lieu de stabilité. Il y a l'obligation d'avoir un suivi social. Donc c'est-à-dire, il y a une assistante sociale qui passe. À Lille, on a un partenariat avec la Bège pour remettre un pied dans la vie active, déclencher des allocations, la retraite. Hein. Je me souviens d'une grande victoire un soir quand Philou nous a dit « ça y est, je touche ma retraite ».
Ouais, parce que ça a mis presque un an quand même.
Et ça a mis presque un an. Et donc ça, et tu vois, c'est Lazare.
Heureusement que j'ai été aidé par une assistante sociale, parce que c'est vrai que moi, tout ce qui est paperasserie, administration, ça n'avait jamais été mon fort. C'était toujours ma femme qui s'occupait de ces choses-là. Et si je n'avais pas eu cette aide de l'assistance sociale, j'aurais eu beaucoup de difficultés pour réunir, faire ma reconstitution de carrière, machin et tout, enfin bref. Et ça a quand même mis un an. Mais bon, au bout d'un an, ça y est, je l'ai eu. J'y avais droit, mais ils ne sont jamais très pressés de payer. Hein. Donc...
Ouais.
Donc, des règles comme ça. Et ensuite, un cadre de vie qui est qu'on partage un repas par semaine ensemble. Chose hyper importante, Jérémy, qu'il faut que tu gardes en tête, on paye tous le même loyer.
Ça, il nous a expliqué, Timothée.
Ouais, trop cool. On est sur un pied d'égalité on a des services en commun. C'est-à-dire que ce n'est pas des jeunes pros qui accueillent des personnes sans abri.
Ouais.
Ce n'est pas du tout ça. C'est une colocation, on est tous sur un pied d'égalité et on est tous accueillis par la coloc. Tu vois, c'est hyper important de ne pas faire trop la distinction entre jeunes pros et personnes sans abri, parce qu'en fait, au sein de la coloc, elle n'existe pas.
Non, pas du tout.
Et on vit la même vie tous ensemble.
C'est l'objectif d'ailleurs d'effacer ce...
C'est la vraie rencontre, elle ne se fait pas s'il n'y a pas un vrai pied d'égalité. Et donc, par exemple, le loyer permet une égalité économique. Tu vois, les règles permettent une égalité de règles et de modes de vie.
Et je vais rentrer dans le, on va dire, dans le pratico-pratique qu'on va vivre dans toutes les colocs. C'est est-ce que tu as une obligation de faire des repas toi-même? Ça tourne, comment vous organisez?
Tous les mardis, parce que c'est le dîner de coloc, donc le dîner obligatoire, on redéfinit une liste de 8 services. Donc dedans, tu as les courses, tu as le nettoyage des toilettes, le nettoyage des douches, les poules, enfin voilà, tout ce que tu peux imaginer dans une coloc classique.
Ah, donc vous élevez aussi.
Et donc on a des poules,
Excellent.
Et on a 3 belles poules qui pondent bien. Et donc on essaie comme ça de tourner et donc on rend tous un service.
Et bientôt un beau jardin.
Et bientôt un beau jardin.
Un potager?
Ah, on en a déjà un. On en a un depuis un an déjà.
Ouais. Et donc ça, alors parce que toi, t'es jeune actif.
Ouais.
T'arrives quand même à t'occuper des types du potager alors que la journée, t'es pas là. Est-ce que là, c'est plutôt...
Moi, j'ai une carrière professionnelle particulière parce que je suis enseignant chercheur. Donc en fait, je suis assez souvent à la maison, donc je peux me dire tiens, je vais un quart d'heure désherber dans le potager. En plus, comme je suis fils d'agriculteur, c'est vrai que le potager et les poules, c'est un peu ma nature et mon œuvre.
Oui.
Donc j'ai pas trop de mal et le reste des services, c'est pas trop chronophage en fait. Un jeune pro arrive à le faire sur le soir. C'est vrai que moi, les services de jour, comme le potager et les poules, j'essaie de les prendre assez régulièrement.
Et toi, Philippe, pendant les journées, tu les occupes comment?
La journée, comme je suis retraité maintenant, évidemment, j'ai du temps disponible assez facilement. Et comme ça me convient parfaitement, le matin, souvent, je fais mon petit bricolage de nettoyage, nettoyer ma chambre, faire mes lessives, tout ça, enfin, travail quotidien.
Tu fais le petit déj pour tous les colocs aussi ?
Tous les matins, oui, parce que comme
ah
je
ouais
suis
non, mais
comme
t'as pas idée de ce que c'est.
Je suis un lève-tôt parce que je dors pas beaucoup. Tous les matins, j'ai pris en charge, et puis ça me fait plaisir d'ailleurs, de préparer le petit déjeuner. Comme ça, quand ces messieurs descendent vers 7h pour aller au LOD, les LOD, ce sont les prières qu'ils ont fait le matin. Ils arrivent, le petit déjeuner est prêt, il n'y a plus qu'à s'asseoir manger. Voilà.
Mais tu vois, juste un point là-dessus, c'est que en fait, c'est hyper important, quand on descend, on est attendu. T'imagines la chance qu'on a, c'est-à-dire qu'on est dans une coloc, mais t'as des colocs où les gens, ils vivent et ils passent, ils se connaissent pas. Nous, moi, le matin, quand je descends, je sais que je suis attendu et que c'est le moment qu'on va avoir avec Philippe de trois quarts d'heure, une heure, parce que le petit-déj dure, parce qu'on papote à chaque fois, il y a des nouveaux sujets. Mais c'est oufissime de descendre et de te dire « je suis attendu en bas, j'ai une raison de me lever ».
Ouais.
Rien que pour ça, des jeunes pros qui sont un peu perdus, etc., ça peut les remettre en fait, sur un chemin hyper sain. En fait, il n'y a pas que les personnes sans abri qui profitent de Lazare, tout le monde en profite.
Tout à fait, oui.
Et juste, là je vais parler en tant que, tu vois, si t'es étudiant ou un peu jeune, tu peux avoir envie des fois de recevoir des gens, tu peux recevoir des gens ou ça tu peux pas?
Tu peux juste pas dormir avec des gens, tu peux recevoir des gens, mais comme dans toute coloc, ce que je pense devoir être le cadre de toute coloc, tu demandes aux autres si ça les dérange pas, et t'essayes de pas faire trop de nuisances, etc. Mais ouais, tout à fait, au contraire, même je crois que ça fait plaisir, Filou, je sais pas
ce
que
tout à fait, absolument, oui. Quand un colloque, par exemple, nous dit « j'ai retrouvé un copain que je n'ai pas vu depuis X temps, il sait que je suis dans une colloque maintenant à Lazare, est-ce que ça ne vous embête pas si je l'invite à manger un soir pour passer un moment ensemble ?» Et puis nous, ça nous fait un invité, ça nous fait une compagnie qu'on n'avait pas auparavant, et puis des connaissances.
Ouais. Hein,
c'est important de pouvoir diversifier ses rencontres.
Voilà. Et après, à l'inverse, est-ce que tu as le droit d'aller, je sais pas, d'aller en boîte jusqu'à 5h du mat
Ouais, en fait, tu restes quand même libre de tes faits et gestes. La réalité, c'est quoi? C'est que tu ne rentres pas bourré à Lazare. Si c'est ça la question, ça, non, c'est pas
possible. Par exemple, ça peut être ça.
Ça peut être ça. Après, si t'as envie de sortir jusqu'à 5h du mat, ouais, il y a les lots le lendemain matin quand même. Mais tu restes libre et un étudiant. Moi, je suis arrivé à Lazare en tant qu'étudiant. Tu vois. Donc ouais, tout à fait, tu peux sortir jusqu'à 5h du mat. Chose importante sur les rencontres, c'est qu'une fois par mois, nous, on ouvre la coloc et il y a plein de gens de tout le coin qui sont invités pour venir à ce qu'on appelle le goûter de l'amitié. Donc tous les premiers dimanches du mois de 16h à 18h, on ouvre les portes de la coloc et n'importe qui peut venir apporter un petit gâteau, un petit jus de fruits, etc. et discuter avec les colocs, faire des rencontres, et ça a produit de belles amitiés, tu vois.
Absolument,
je pense à Sophie, à Blandine, à Mohamed Voix.
Ouais, tout à fait, oui. Voilà. Absolument, oui. Et puis ça nous permet aussi en même temps de pouvoir diversifier les connaissances de tout le monde, et puis les gens qui ne nous connaissent pas, comme ça ils apprennent à nous découvrir, à nous connaître, et puis ça fait rayonner l'association, c'est très bien.
Tout à l'heure, tu as juste mentionné, Paul, le fait que tu avais rencontré aussi des difficultés. Qu'est-ce que tu peux rencontrer comme difficulté et comment ça se gère en fait?
Tu peux rencontrer les difficultés classiques d'une colocation, c'est-à-dire les chiottes sont sales, la douche n'est pas nettoyée, les courses n'ont pas été faites, donc classique. Et puis, tu rencontres des difficultés forcément à Lazare qui sont un peu dues au type de colocation. D'abord, c'est une colocation intergénérationnelle. Qui dit intergénérationnelle dit grande richesse, mais parfois petites incompréhensions. Mais des petites incompréhensions au quotidien, parfois, ça fait des frustrations et des petits heurts parfois. Mm-hmm. Moi, je pense à deux colocs qui ont un peu de mal parfois tous les deux. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas du tout grave en fait. Ce qui compte, c'est la réconciliation.
C'est humain quoi, au final.
C'est humain. Et après, quand même, il y a une spécificité à Lazare, c'est les petits heurts qui peuvent être dus aux addictions ou aux pathologies psychiatriques des colocs. C'est vrai que tu sais que dans les personnes sans abri, les pathologies psychiatriques sont surreprésentées. Donc forcément, parfois, on accueille des colocs qui ont des problèmes psychiatriques, et ça peut créer de l'incompréhension et des tensions entre colocs. Donc les petits heurts, ça va être parfois de gérer deux colocs qui, eux, s'entendent pas du tout.
Et t'étais préparé à ça ou c'était quelque chose que t'imaginais pas?
Non, c'est quelque chose que t'imagines pas, un, t'es pas préparé, deux, et trois, de toute façon, il n'y aurait pas de préparation.
Ouais.
Tu apprends sur le tas. Et surtout, je crois que tu apprends en faisant œuvre de charité. En fait, tu apprends, c'est pas du management, tu apprends en disant, mais en fait, je vais les aimer à fond, et les aimer à fond, ça veut dire que je vais prendre sur moi, je vais essayer de relancer un dialogue entre deux colocs alors qu'ils veulent plus se parler, et de réinsister toutes les semaines alors que les deux disent non, de continuer à dire faudrait que t'ailles parler à machin, ce serait bien, etc. Voilà. Mais non, t'es pas préparé à ça.
Il y a des gens vraiment qui arrivent pas à s'intégrer dans une maison Lazare, ou en général ça passe?
Filou, t'en penses quoi?
Moi, personnellement, depuis quasiment 2 ans, j'ai jamais rencontré cette chose, Dieu merci d'ailleurs, parce que ça aurait été vraiment dommage. Mais c'est vrai que, comme tout à chacun, quelquefois, on a des connaissances et des attirances vis-à-vis d'une personne plus que par rapport à une autre. Bon, ça, c'est une question de mentalité, de l'âge. Mais en principe, non, j'ai jamais assisté, heureusement, encore une fois, à ce genre de problème. Dieu merci.
Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, à Lazare, quand il y a des difficultés, surtout parfois, tu vis dans un énorme ensemble. À Lille, je t'ai dit, on est 8, tu as des colocations, ils sont 40.
Ouais.
30 ou 40, hein, je pense à Nantes, etc. En fait, ça apprend plusieurs choses qui sont des vertus chrétiennes, mais qui sont, je pense, des vertus essentielles dans la vie. Ça t'apprend la tempérance, c'est-à-dire la capacité à toi mettre tes émotions de côté, à gérer une situation et à te dire, voilà, je vais essayer de calmer le jeu, de ne pas mettre d'huile sur le feu. Ça t'apprend la charité, c'est-à-dire à vraiment avoir le cœur brûlant d'amour pour tes colocs, au point de te dire, bah, là, je vais me sacrifier un petit peu pour faire le pas de plus, tu vois, le pardon de plus qui fait que la situation va se débloquer. Et ça montre une chose essentielle, c'est que cultiver la joie, c'est un choix. Dans la prière Lazare, on parle de ça, on dit nous qui avons décidé de cultiver la joie. Mais en fait, cultiver la joie, c'est un choix. Être optimiste en permanence et de dire, bah, en fait, ce colloque qui, là, objectivement, est odieux, je vais faire en sorte de trouver ce qu'il y a de meilleur chez lui, de l'exacerber et de faire en sorte que lui aussi resplendisse. Bah voilà, c'est ça le choix de la culture de la joie.
Et quand tu dis des prières Lazare, c'est-à-dire vous participez, enfin vous avez des mantras qui appartiennent à l'association ou c'est des prières classiques
Alors, si tu veux, Lazare c'est une association d'inspiration chrétienne.
Ouais.
Y a de tout dans les colloques Lazare. T'as des bouddhistes, des musulmans, des cathos, etc. Ce qui est vrai, c'est que chez les jeunes pros, t'as une obligation d'aller tous les matins au Laude. C'est Philippe qui en parlait tout à l'heure. Donc au Laude, c'est une prière de 20 minutes au début de la journée. À Lille, elle est à 7h. Et on a une prière des colloques qui a été présentée au pape. Une magnifique prière des colloques. Peut-être que tu veux un exemplaire, on pourra te le filer après pour que tu puisses le mettre en lien. Et parmi les versets de cette prière des colloques, il y a marqué, bah voilà, Seigneur, nous décidons de, avec nos vies cabossées, de faire une belle maison avec nos vies cabossées, et de cultiver la joie, de sortir de nos tombeaux.
Voilà. D'accord.
Et donc ça, effectivement, c'est une prière qu'on prie tous assez régulièrement, mais chacun est libre de la prier ou pas. Tu vois, à la colloque, par exemple, on a Mohamed, ça pose aucun souci.
Ouais, d'accord.
Et il y a une phrase quand même qui porte pas mal Lazare, parce que c'est par elle que Lazare a été créé, c'est « Tu n'es pas appelé à réussir, tu es appelé à être fidèle ». Et ça, c'est une phrase extraordinaire de Mère Teresa. Et je crois que c'est surtout ça qu'on partage tous. C'est, voilà, toujours tenter une fois de plus le pardon, une fois de plus l'amour, une fois de plus la joie. Et tu sais, c'est juste une fois de plus qui va te débloquer la situation et faire un truc extraordinaire.
Alors, on voit bien, du coup, ce qui vous rassemble. Mais bien entendu, vous êtes tous différents. Qu'est-ce que vous apprenez les uns des autres?
C'est par le vécu de tout à chacun. Voilà. Bah, moi, par exemple, j'essaye de bien écouter ce que je n'ai pas forcément fait ou entendu auparavant, de manière à ce que ça puisse m'enrichir mes connaissances. Et comme j'essaye aussi, dans l'autre sens, d'essayer de leur, comme je disais tout à l'heure, de leur apporter certaines expériences que moi j'ai pu avoir dans ma vie professionnelle ou même privée d'ailleurs, de manière à ce que ça puisse les aider à se confronter à ce genre de situation, quand le cas échéant, ça doit peut-être leur arriver.
Mmh. Moi, ça me fait un peu le memento mori, tu sais, des empereurs. C'est, en fait, souviens-toi que tu n'es qu'un homme. Souviens-toi, tu vois, là, on a eu l'histoire de Philou qui est hyper touchante. En fait, souviens-toi que tout peut s'effondrer à tout moment, que tu n'es rien. Sans les autres, en tout cas, que tu n'es rien. Ça m'apprend surtout une chose essentielle, c'est que la rencontre est merveilleuse. En fait, ça m'apprend que l'autre est un trésor et que seul je suis rien et qu'il faut absolument que j'apprenne à écouter, à rencontrer et à entrer en connexion, tu vois, profonde avec les autres parce que tout le monde a quelque chose à apporter. Tu vois.
Ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est un peu le mantra de Deviens Génial. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai lancé le podcast, c'était vraiment sur cette idée que chacun a une pépite en lui et qu'il faut qu'il la trouve. Absolument. Et donc il faut explorer, il faut rencontrer des gens. Les déclics viennent de là aussi.
Et c'est ça, et c'est aussi, tu vois, une fois que tu transformes ça c'est l'essai. Quand tu transformes l'essai, c'est en fait chacun est génial, etc. Et donc chacun vaut le coup qu'on aille jusqu'au bout du bout. Aucune association d'aide sociale n'ira aussi loin que Lazare. Parce que nous, on ira au bout du bout pour porter les colocs. Et on a des exemples, hein, Philou, tu acquiesces, parce qu'à Lille, on a vécu des choses comme ça.
Bien sûr.
On ira toujours le plus loin possible aux portes des prisons chercher nos colocs. On ira au bout de l'accompagnement social, au bout d'un accompagnement psychologique. On soutiendra à fond des colocs qui partout se seraient fait jeter, parce qu'on est persuadé qu'au plus profond, ces mecs-là sont des pépites et qui se révéleront. Tu vois. Et ça, je l'ai vu nulle part ailleurs qu'à Lazare, cette volonté de considérer l'autre comme un trésor, mais du coup de se battre à fond pour lui parce que chacun en vaut la peine. Quoi.
Il le mérite, oui, bien sûr.
Et alors là, la question suivante, elle est assez simple. C'est quand on vit quand même des expériences assez fortes comme ça, on sait que, enfin, en tout cas, Timothée nous l'a expliqué, c'est-à-dire que Lazare, c'est un passage en fait. C'est derrière, vous allez reprendre aussi chacun votre vie. Est-ce que ça ne fait pas peur, justement, de se dire qu'on va quitter cette famille, même si on peut rester en contact, mais c'est quitter le cocon, quoi, quelque
Bien
part
sûr. Bah, disons que moi, je pense qu'effectivement, en plus, ça fait quand même 2 ans que j'y suis. Donc, si j'y suis resté aussi longtemps, c'est tout d'abord parce que je m'y trouvais bien. Deuxièmement, parce que j'avais des petits soucis de finances, tout ça à régulariser. Mais il est certain que, jusqu'à preuve du contraire, je ne vais pas non plus finir mes jours chez Lazare, parce que j'espère quand même vivre quelques années supplémentaires. Et j'espère bien retrouver mon indépendance, mon autonomie. Pas que je ne sois pas à l'aise chez Lazare, mais c'est parce que c'est tout à fait normal que je récupère un peu ma vie aussi personnelle. Et puis en même temps, bah, ça pourra, ce qui n'est pas négligeable, donner la place à quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais. Qui aura, lui, la chance de pouvoir me remplacer. Enfin, me remplacer, non, pas me remplacer, mais de me succéder, on va dire, dans le rôle de, dans le poste de colocataire. Et ça fera un heureux de plus. Voilà.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a un choc post-Lazare. Je connais des colocs qui l'ont vécu plus ou moins bien. C'est un peu comme la transfiguration. Tu sais, tu vis un truc hyper fort, il faut redescendre de la montagne. Ça, c'est vrai. La réalité, c'est que Lazare sera jamais fini. Moi, 2 ans de Lazare, ça m'aura autant marqué que 15 ans de scoutisme. Parce que, en fait, quand tu te mets à te dire que le sans-abri que tu vois au coin de ta rue, c'est peut-être ton futur coloc, ça te change à tout jamais. Et donc, en fait, en ça, Lazare, ce sera jamais fini. Bien sûr, je vivrai plus à Lazare, quoique, en fait, peut-être qu'un jour, je serai famille Respo, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne vivrai plus jamais après comme j'ai vécu avant. Et on garde un lien. Moi, je me vois pas, une fois que je suis parti de Lazare, dire « Bon, bah, Philippe, on se parle plus, Momo, on se parle plus, etc. » En fait, Lazare sera jamais fini. Les colocs, ils le sont pour toute ta vie. Tu gardes un lien avec eux parce qu'en fait, tu vis avec eux 24-24. Forcément, tu les aimes de tout ton cœur. Et tu disais « Est-ce que ça fait peur ?»
Ouais, est-ce que ça fait peur, quoi, ce vide-là ? Parce que même si je comprends bien que, tu vois, les liens restent, mais quand même, tu peux, pour certains cas, te retrouver encore seul, tu vois. Est-ce que c'est pas ça qui est difficile, tu vois, de quitter la communauté ?
Bah, pour ma part, moi, je suis plutôt d'un naturel hyper optimiste. Je me dis que des rencontres, il y en aura plein d'autres, que ça a transformé ma vie et que j'aurai plein d'autres choses à faire après Lazare.
Ouais. Ça t'a donné peut-être cette gymnastique d'aller plus vers l'autre.
Hein. Mais ça a changé complètement mon orbite, tu vois. Comme une planète, en fait, j'ai été changé complètement d'orbite d'une manière violente et extrême. Parce qu'en fait, l'orbite auquel la société nous habitue n'est pas du tout une orbite naturelle pour l'homme. En fait, on est hyper déconnecté de l'amour, de la rencontre, etc. On passe, les gens sont plus que des ombres. En fait, à Lazare, les gens sont des trésors. Tu vois des trésors à tous les coins de rue. Donc forcément, tu vis plus pareil. Donc non, un, ça me fait pas peur. Deux, ce sera extraordinaire après parce que ça portera beaucoup de fruits. Je sais pas encore lesquels, mais ouais, ça en portera. Et puis, ça m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires qui resteront toute ma vie.
Oui, tout à fait. Et moi, j'ai observé depuis 2 ans. Donc, moi, j'ai vu pas mal de colocataires qui ont repris leur vol, qui ont repris leur indépendance. Un, parce qu'il va bientôt se marier. L'autre, parce qu'il avait un boulot sur Paris, justement. Il est sur Paris. Mais le contact existe toujours parce que, un exemple, une petite anecdote qui m'a énormément touché. L'année dernière, mon anniversaire, c'est au mois de mai. On avait un coloc qui s'appelle Max, qui est parti de la coloc, donc il a repris son envol. Et ben, il s'est souvenu de ma date d'anniversaire. Et de Paris, il est venu exprès un week-end pour venir me souhaiter bon anniversaire. Ça, si c'est pas une preuve d'amour et d'amitié.
Ouais. Et là, on va faire une rando ensemble dans les
tout
Alpes.
Tout à fait. Voilà. Et prochainement,
on va
le retrouver dans sa famille et puis on va aller faire une balade ensemble et tout ça. Et ce qui fait que régulièrement, il téléphone, il prend contact. Alors ça va depuis tant, nanani, quelle nouvelle, tatati, tatata. Il est indirectement, il est toujours là.
Ouais, ce sont toujours des belles histoires.
Ouais, ouais. Une famille, ça s'arrête pas parce que l'enfant part faire ses études dans une autre ville.
Bien sûr.
Ah oui. Non, mais c'est vrai, je me dis, ça peut donner un peu le vertige, tu vois, quand tu as vécu avec 8 personnes. Enfin, de toute façon, même tu vis dans une coloc, hein, y a un moment où quand tu repartes vivre seul, t'as ce côté un peu... t'as un petit manque, en fait.
Nostalgie. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Il faut savoir le combler et l'habiter, ce manque. D'abord, il faut l'accueillir. En fait, si c'est ta peur naturelle, il faut accueillir cette peur de dire « Putain, l'aventure est finie, je vais faire quoi après ?» C'est que c'est beau, c'est que t'as vécu un beau truc, tu peux rendre grâce. Et après, dire « Bah, du coup, si j'ai aussi peur, peut-être qu'il y a une raison. Et qu'est-ce qui peut faire que j'aurais plus peur ? Qu'est-ce qui va pouvoir me sécuriser ? Et qu'est-ce qui va faire que je vais vivre un truc aussi ouf et puis perdre un instant ? Mais moi, tu vois, par exemple, je sais que là, je vais me fiancer après Lazare. Là, j'ai démarré l'aventure de ma thèse. Tu vois, donc j'ai des grandes aventures aussi qui s'ouvrent.
Tu fais une thèse sur quoi d'ailleurs ?
C'est hyper intéressant. Je fais une thèse qui est inspirée par Lazare sur l'accès aux soins des personnes vulnérables et des personnes sans abri pour qu'elles aient un meilleur accès aux soins. Donc, tu vois, je fais une thèse en droit médical inspirée directement par la vie de mes colocs.
Alors du coup, cet après, vous l'imaginez comment ? Vous avez envie de quoi tous les deux ?
Bah, moi, en ce qui me concerne, le jour où je récupérerai mon autonomie, mon indépendance, bon, ça fera certainement très très drôle au début parce que j'aurai plus l'habitude de voir mes collègues et mes copains autour de moi. Mais je sais pertinemment que régulièrement, je les recontacterai, je viendrai.
Tu viendras les aider ?
Ah oui, bah, éventuellement, bien sûr, ouais, tout à fait. Je ne vais pas parce que je vais quitter Lazare que je vais les oublier. Ça c'est pas possible. C'est même pas envisageable. Donc voilà, et régulièrement, je les recontacterai. Voilà, je prendrai des nouvelles pour essayer de faire perdurer le contact, le lien.
Moi, je pense que je vais déménager, je vais aller près du Mont Ventoux, là, dans le sud.
Ah, la chance.
Bah ouais, parce que là, tu vois, j'en reviens, là, il faisait 20 degrés, j'arrive à Paris, puis après, on va à Lille, il y a 10 jours de grisaille, 15 degrés, enfin, j'en peux plus. Mais ouais, je pense que je vais aller dans le sud, parce que vivre à Lille sans être à Lazare, ça fait bizarre. Il faut une coupure. Mais après, j'hésite pas mal, il y a une maison Lazare dans le sud, à Sarriens, et je me dis, bah tiens, j'aurais peut-être bien passé quelques mois, tu vois, en post-Lazare Lille. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, pour moi, Lazare Lille, c'est fini.
Mais t'as dit que t'allais te fiancer. Et ouais. D'ailleurs, c'est une question, tu peux y aller en couple ou
Non, tu peux pas y aller en couple fiancé, mais les fiançailles, c'est aussi un moment important à vivre séparément. Il faut pas le vivre non plus comme le mariage. Donc en fait, ça peut permettre d'avoir une saine distance. Là, on a toujours été à Lille tous les deux. Ça peut permettre de découvrir d'autres choses dans notre couple. Et puis moi, comme je travaille à Lille, je suis toutes les semaines à Lille, donc...
Et après, tu disais, il y a les familles...
Ouais, après, il y a les familles responsables. Donc, quand t'es famille respo, tu vis avec tes enfants sur place, dans une des maisons à Marseille, Nantes, Lille, etc. Et tu animes la vie d'une coloc, tu la gères, etc.
Et ça pourrait te brancher.
Ah ouais, à fond. Mais après, ça se décide avec son épouse.
Et ouais, là, c'est un projet de couple.
Mais
ouais,
puis, oui, forcément.
Bon, en tout cas, messieurs, très belle histoire. Je trouve génial, hein, de toute façon. On a déjà eu le point de vue de Timothée, votre quotidien. On va bientôt se quitter. Est-ce que vous avez un dernier truc que vous avez envie de dire ?
Ouais, bah moi j'aimerais dire à tous les auditeurs de Deviens Génial que vous l'êtes probablement déjà parce que vous écoutez cette émission, mais que ensuite si vous l'écoutez, c'est que vous cherchez quelque chose d'extraordinaire. Et je vous dirais, en fait, ne stressez pas, vous n'êtes pas appelé à réussir, vous êtes appelé à être fidèle. Ne cherchez pas à réussir votre vie, cherchez à être fidèle à ce qui vous anime au plus profond de vous. Et en fait, souvent, quand tu es fidèle à ce qui t'anime au plus profond de toi, mine de rien, tu réussis sans le vouloir. Ça va de pair et c'est dans une paix intérieure extraordinaire. Donc voilà, je souhaite à tous tes auditeurs de trouver leur voix et de savoir s'écouter d'abord avant de trouver leur voix. Et parfois, ça passe par des magnifiques rencontres et je regarde Filou.
Mmh. Oui, bah moi je confirme ce que vient de dire Paul à 100%. Et puis si jamais ces personnes qui sont intéressées par le sujet qu'on vient de développer veulent contacter Lazare, qu'ils n'hésitent surtout pas à taper à la porte. Il y aura quelqu'un qui la rouvrira et qui leur montrera le bien fondé et les bonnes actions qu'on peut prodiguer.
Carrément.
Bon, Philippe, Paul, vous nous avez fait un beau cadeau. Donc vraiment merci pour ce moment passé ensemble.
Merci à vous.
Et bien entendu, je le rappelle encore à nos auditeurs et auditrices, allez vous renseigner davantage. Là, on vous a donné des témoignages, mais il y a aussi plein de choses à découvrir encore. Et surtout, peut-être aller faire une soirée chez Lazare, un repas.
Carrément, un goûter de l'amitié.
C'est le mieux pour... moi, je vais le faire, en tout cas. Je vais aller découvrir parce que là, vous m'avez quand même donné envie. Et puis, bien sûr, si vous avez aimé cet épisode, parce que si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Parlez-en au maximum de gens parce que c'est ce qui va permettre de faire découvrir l'assaut, peut-être de déclencher des vocations et de faire de très, très belles rencontres comme vous venez de nous décrire. Donc, merci à tous les deux.
C'est Jérémy.
Merci, Jérémy.
À très bientôt. Je me demande pareil.